Manger sainement et manger de façon éthique ou durablement, ce n'est pas forcément la même chose. Alors ok, ça va souvent de pair. La petite différence, c'est que manger sainement, c'est généralement une approche centrée entre guillemets sur moi ou sur toi, tandis que manger durablement, c'est plutôt centré sur nous, c'est une notion plus large. En gros, c'est quand tu as une relation avec la nourriture qui profite pas seulement à toi-même, mais aussi à la planète, à la vie des producteurs et des cueilleurs. Il y a beaucoup à dire sur notre système alimentaire actuel et sur le fait que malheureusement, la plupart du temps, notre façon de manger n'est pas durable. Quand on achète un avocat par exemple, on ne pense pas toujours à vérifier sa provenance. Le plus souvent, en plus, c'est le Pérou et on ne pense pas donc à la distance qu'il a parcourue ou les conditions locales dont il a été cueilli. Ou encore, est-ce que c'est de saison ou pas de saison ? Une alimentation équilibrée ou manger sainement, comme je te disais au début, c'est l'équilibre entre tes fruits, tes légumes, tes glucides et tout ça dans ton assiette. Pour transformer cette alimentation en alimentation durable, c'est devenir conscient et te poser des questions comme d'où est-ce que vient ma nourriture, comment est-ce qu'elle a été cultivée, quels ingrédients et produits chimiques sont impliqués dans sa production, comment ça affecte l'environnement, etc. J'ai pleinement conscience que tout le monde n'est pas en mesure de changer ses habitudes alimentaires et que manger sainement et durablement peut être perçu comme accessible seulement aux privilégiés. Je parle pas que des riches quand je dis privilégiés, je parle aussi de ton emplacement géographique, de si tu es célibataire, de si tu as une famille, tout ça. On n'a pas forcément tous accès à un petit producteur local en bas de chez nous ou la place de mettre un potager dans son jardin. Si c'est le cas, tant mieux et c'est parfait et bien sûr c'est la meilleure façon de manger plus durablement. Si c'est pas le cas, je te propose 6 façons simples et accessibles de manger durablement. Mon premier conseil, c'est d'essayer de manger de saison. Aujourd'hui en Europe, on a pris pour acquis de pouvoir manger des fraises en janvier ou des toasts d'avocat tous les jours. Une des choses que j'ai bien aimé quand j'habitais en Indonésie, c'est que quand c'était pas la période de certains fruits ou légumes, bah tout simplement, il n'y en avait pas. Ils cherchaient pas à importer ou quoi que ce soit. Si tu voulais de la mangue en hors saison, bah non, on te disait plutôt d'aller manger une noix de coco et du coup c'était plutôt pas mal. Et il y a une raison pour laquelle on peut pas obtenir certains fruits ou légumes à un certain moment de l'année. Déjà, c'est pas naturel qu'ils soient cultivés à ce moment-là et où les endroits d'où ils viennent sont très éloignés. Dans ce cas, ça signifie qu'il y aura beaucoup d'émissions de carbone pour pouvoir les faire venir. Si t'as des fraises sans goût au supermarché en janvier et que t'es déçu, c'est assez normal. Normalement, les produits saisonniers ont la capacité de pousser sans trop d'aide humaine. Le soleil et le sol font le travail à la place des produits chimiques et OGM qui sont souvent ajoutés aux produits cultivés hors saison. Prendre soin de tes besoins saisonniers est également important. Tu vois bien que tu ne manges pas de la même manière en décembre ou en août. Ton corps n'a pas les mêmes besoins selon la période de l'année. Les aliments qui sont à notre disposition pendant certaines saisons prennent soin de nous. Les pommes, à l'automne, c'est l'aliment de transition parfait car elles aident notre corps à se débarrasser de l'excès de chaleur avant l'hiver. Les légumes verts de printemps, eux, nous aident à détoxifier et à éliminer le rembourrage hivernal. Les produits d'été, eux, sont pleins d'eau, comme la pastèque, les concombres et les baies, pour nous aider à rester hydratés. Et cette philosophie s'applique à peu près n'importe où tu vis. Encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Tu respectes les besoins de ton corps et la terre en respectant la saisonnalité. Outre les bienfaits pour la santé et la planète, les aliments de saison ont généralement meilleur goût et sont moins chers pour ton portefeuille. Si jamais tu connais pas les fruits et légumes de saison, tu peux télécharger mon Green Planner en lien dans la description de ce podcast. Je l'avais fait pour mes accompagnements, donc en plus du calendrier des fruits et légumes de saison, tu y retrouveras aussi un calendrier annuel non daté pour que tu puisses le réutiliser d'année en année et commencer quand tu le souhaites, des pages pour tes reconnaissances du mois et une trame pour noter tes objectifs pour atteindre ta green life et faire un suivi. Et entre tout ça, tu auras bien sûr les fruits et légumes de saison. Mon deuxième conseil, c'est de privilégier les perdants, les losers. Tout le monde veut le meilleur de tout, c'est une condition humaine naturelle. Pourtant, en ce qui concerne la nourriture, les perdants ont tout autant de valeur. Donc ce que j'appelle les perdants, c'est les fruits et les légumes moches. Parce que même s'ils sont moches, et encore, enfin moches c'est hyper subjectif, Personnellement, quand je vois une pomme trop parfaite, trop rouge, j'ai pas confiance. Elle me fait un peu penser à la pomme de Blanche-Neige, je trouve ça douteux. Un fruit trop parfait, c'est pas possible, je me dis qu'on l'a forcément aidé. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, revenons à ma phrase du début. En général, les supermarchés ont un bout de rayon pour les fruits moches et les prix sont moins chers. Ils sont moches, peut-être, mais ils sont toujours en parfait état de consommation et le goût sera le même. Malheureusement, entre 20 et 40% des produits sont gaspillés parce qu'ils sont pas assez beaux pour être vendus. T'as aussi, dans certains magasins, les produits qui sont abîmés au niveau de l'emballage ou avec une date limite de consommation assez courte, voire très très courte. Là aussi, les prix sont souvent à 50% ou plus par rapport à leur réduction. T'as des applications anti-gaspi de type Too Good To Go ou Phoenix. Alors pour le moment, ces deux applis, elles sont top, mais elles marchent pas partout. Ça marche bien dans les grandes villes. Sauver un légume, un fruit ou un yaourt de la déchetterie t'aide à manger de façon durable et à réduire la quantité de déchets alimentaires. Ça te permet de faire des économies tout en faisant un geste pour la planète. Et je te rassure, si le magasin met ces choses en vente, c'est que c'est encore consommable. Jamais ils prendront le risque de provoquer une intoxication alimentaire. Enfin, pas volontairement du moins. Mon troisième conseil pour consommer de façon durable, c'est de reconsidérer ta façon de consommer des produits d'origine animale. Les produits animaux et la viande sont définitivement devenus un gros sujet de débat ces dernières années. D'une part, l'élevage industriel, c'est une industrie incroyablement mais non durable, contraire à l'éthique et polluante. Parce que dans l'élevage industriel, le bien-être du bétail, des agriculteurs, des ouvriers agricoles et des écosystèmes locaux, c'est généralement pas pris en compte. T'as peut-être déjà entendu parler de l'association L214 ou vu un de leurs reportages ou actions coup de poing. Bah, ce qu'ils montrent, c'est violent. C'est très très violent. Et on peut penser ce qu'on veut de cette association sur leur manière de faire, mais en soi, ils n'ont pas tort sur tout. Tu rajoutes à ça les hormones toxiques données aux animaux, le stress dans lequel on le met. Bref, l'élevage industriel, c'est loin d'être bénéfique. Donc cela dit, je suis pas en train de lancer une campagne générale en mode « devenons tous véganes ». Déjà, ce serait hypocrite de ma part parce que je ne suis pas végane. Et je suis ce qu'on certains appellent, je crois, flexitarienne. Je mange rien à base de lait, donc pas de beurre, pas de crème fraîche, yaourt, lait, tout ça. Pour moi, c'est du végétal. Mais je mange des œufs et parfois, voire même rarement, je vais manger de la viande blanche. Mais je ne suis pas végane. Je sais que l'être humain a toujours mangé de la viande et on a toujours élevé du bétail, tout ça, tout ça. Je suis d'accord, ok. Mais avant, on n'avait peut-être pas les mêmes préoccupations environnementales qu'aujourd'hui. Et avant, on n'avait pas l'élevage industriel intensif comme aujourd'hui. Donc, pour en revenir au véganisme, je trouve qu'en soi, ça peut être une bonne façon de consommer. Mais, attends, je vais revenir sur mes propos. Je m'en fous, je coupe pas au montage, je te donne ça freestyle. En fait, c'est pas du véganisme dont je veux te parler, parce qu'en fait, je pense que tous les aliments végétaliens ne sont pas sains, et tout ce qui est fausse viande est alternative, il y a des produits chimiques. Et surtout, pour avoir tenté l'expérience, une grande partie de la nourriture végétalienne est à un prix inaccessible. Inaccessible financièrement dans un premier temps et inaccessible dans certaines régions. J'habite à Paris, donc forcément, j'ai toujours le choix de tout. Par contre, quand je rentre chez mes parents dans un petit bled normand, c'est pas le même sujet. Prôner le véganisme, c'est créer une barrière avec les personnes qui n'ont soit pas le même budget, soit pas les mêmes accès. Donc revenons au fait de reconsidérer notre façon de manger plus durablement. Pour certains, c'est peut-être inclure de la viande dans leur alimentation et pour d'autres, ça peut être du végétarisme ou du véganisme. Quelle que soit la façon dont tu choisis de manger, je te recommande plutôt de le faire avec intention. Tu veux pas devenir végane, ok, soit, essaie juste de végétaliser plus souvent ton alimentation. Par exemple, dans mes accompagnements ou formations, j'ai un module sur l'alimentation végétale. Tu peux par exemple apprendre certaines recettes sans viande. Ou encore, tu peux acheter ta viande auprès d'un boucher local ou d'une ferme biologique. Comme ça, tu pourras soutenir l'environnement, l'économie locale et ta santé. Le boucher local ou la ferme bio, selon comment ça t'est accessible, ils vont cultiver, élever, nourrir et récolter respectueusement les produits ou la viande. L'idée que je voulais te partager ici, c'est de prendre du temps pour réévaluer la façon dont tu consommes ta viande et comment tu peux contribuer à soutenir la terre. Ma quatrième recommandation, c'est de faire attention aux étiquettes. Une des tactiques de greenwashing courante dans l'industrie des aliments sains, c'est de mettre des étiquettes ambiguës en mode naturel et à base de plantes. Mais ces types d'étiquettes ne signifient pas toujours que le produit ou l'aliment est réellement sain ou durable, et à moins que tu ne lises les ingrédients, il pourrait être tout aussi toxique que les aliments ordinaires. Il y a beaucoup d'argent à gagner dans l'industrie des aliments à base de plantes et biologiques. Il n'est donc pas surprenant que certaines marques en fait sautent dans le train en marche. Pourtant, beaucoup d'entre elles consacrent souvent plus de temps à faire du marketing que trouver des solutions. Lorsque tu achètes des produits alimentaires, essaye de faire attention aux étiquettes qui vont au-delà des mots à la mode. Si toutefois tu ne sais pas lire les étiquettes ou si tu as simplement la flemme mais que tu veux quand même consommer durablement, je te conseille de checker les labels. C'est comme dans les cosmétiques, s'il n'y a pas de label, c'est qu'il y a un loup au niveau marketing et nous, on n'est pas des lapins de 6 semaines. Les labels que je te recommande, entre autres, au niveau de l'alimentation, c'est label rouge, fair trade, pêche durable MSC, agriculture biologique et viande bovine française. Et je me répète, mais les étiquettes marketing peuvent être trompeuses. Donc plus tu peux acheter des produits locaux et mieux c'est. Mon cinquième conseil, c'est d'acheter en vrac. Acheter en vrac, en fait, c'est une habitude de consommation alimentaire beaucoup plus écologique et durable. Les magasins d'alimentation en vrac vendent leurs produits en vrac, ce qui signifie que tu prends seulement ce que tu as besoin, plutôt que d'acheter une taille standard de quelque chose qui peut souvent finir à la poubelle ou être gaspillé. Et c'est super utile pour ceux qui cuisinent pour des petites familles ou pour une personne ou pour ceux qui cuisinent pas souvent. La quantité d'emballage est réduite puisque tu apportes tes propres contenants réutilisables comme des bocaux ou des sacs de produits en vrac. Ça contribue également à réduire l'utilisation des sacs en plastique à usage unique qui te sont fournis dans ces types de magasins. Si jamais tu as envie d'essayer et tu sais pas trop par où commencer, je te propose de tenter déjà avec les pâtes, les lentilles, l'avoine, les produits ménagers, etc. Maintenant, tu peux trouver du vrac même dans les supermarchés, pas seulement en magasin bio. Mon dernier conseil, c'est de commencer ton propre jardin. Et là, je pense que je vais en perdre certaines, mais promis, j'ai toujours les pieds sur terre et c'est toujours des conseils accessibles à tous. Je reconnais que c'est pas réaliste ni réalisable pour tout le monde, surtout si tu habites en ville, que tu as un emploi du temps surchargé, etc. Ça peut aussi sembler intimidant, surtout pour celles qui n'ont pas la main verte ou pas beaucoup de temps, ce qui est mon cas. Mais franchement, tente-le, c'est marrant en plus. Parce que, je vais pas planter des potirons dans mon salon et j'ai encore moins investi dans le potager d'appartement qu'on peut trouver dans certains magasins, puisque déjà ça coûte une blinde ce truc. Mais sur ton balcon, ta terrasse ou directement dans ta cuisine, les herbes, c'est quelque chose de facile à cultiver et entretenir. Commence par des herbes que tu utilises souvent, par exemple du basilic, du thym ou de la menthe. En plus, ça peut te faire faire des économies, puisque la plupart du temps, tu n'as besoin que de quelques feuilles dans une recette. Acheter un paquet entier à l'épicerie, c'est souvent du gaspillage. Autre avantage, les herbes et les plantes à fleurs créent des voies de pollinisation qui sont essentielles pour les abeilles.